J'ai entendu parler, alors j'étais venu pour prendre mon livre.
Quel livre ?
Celui que j'ai laissé sur la cheminée avant-hier.
C'est cela, la littérature ?
On en fait jusqu'au dernier moment. Tant qu'on est vivant, tout est prétexte à littérature.
C'est un bon livre ?
Je demande à Patricia oui ou non, et après...
Les critiques littéraires sont des cactus qui vivent de leurs piquants, parmi les vautours qui vivent de leurs plumes.
Bienvenue dans ma bibliothèque. Aujourd'hui, il sera question d'un petit village perdu d'Espagne, de mafieux grotesques et de poésie malgré tout. Je vous présente La sagesse de l'idiot, un roman de Marto Pariente. Ce roman noir est très bien traduit de l'espagnol par Sébastien Routes. Il a été publié chez Gallimard dans la série noire en 2024. C'est le premier roman de Marto Pariente traduit en français. Je l'ai découvert à Pinmar au festival du Goéland Masqué. J'attends avec impatience les prochains livres de cet auteur dont j'ai adoré l'univers et le style. J'ai pensé à plusieurs artistes pendant ma lecture. James Lee Burke et ses romans noirs qui se passent dans le Bayou, mais aussi Tarantino ou les frères Coen pour leur univers à la fois violent et déjanté. Nous sommes non pas dans le bayou poisseux du sud des États-Unis, mais dans le petit village poussiéreux d'Ascuas, au centre de l'Espagne, dans la province du Guadalajara. Le personnage principal s'appelle Tony Trinidad et c'est en apparence un véritable anti-héros. Il est l'unique policier du village, sur le point d'être licencié. L'activité principale de Tony, c'est certainement la sieste et sa plus grande crainte, la vue du sang. Ce qui pose quand même problème, vous en conviendrez, lorsqu'on est policier. Et oui, Tony est hématophobe. Il s'évanouit lorsqu'il voit du sang. Mais ça ne devrait pas être un souci, puisque normalement, je cite Tony, « il ne se passe jamais rien à Ascuas ». Pourtant, cet adage va se révéler totalement inadéquat, car Ascuas va être le théâtre de règlements de comptes entre mafieux, au centre desquels vont se trouver Tony et sa sœur, la belle Vega. J'adore le début du roman, qui fait, je trouve, très bien rentrer le lecteur dans l'atmosphère du livre. Ascuas poussait entre des montagnes pelées et arides, sur la route des lacs de barrage. Une entaille, rien de plus. À peine une douzaine de rues tordues qui partaient de la place du village, comme les petites veines éclatées sur le visage des alcooliques. La plaie, l'hémorragie, était circonscrite par une poignée de routes secondaires qui la comprimaient comme des varices sur la jambe d'une vieille. Parfois, je me disais que si le village était, comment dire, une personne, quelqu'un comme moi, il aurait l'air d'un type perdu au milieu de nulle part, la main en visière sous un soleil de plomb ou sous la pluie, selon l'époque de l'année. Dans tous les cas, un pauvre type déboussolé, les chaussures sales, et qui ne saurait pas bien où aller, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il se peut que je ne parle pas seulement du village, peu importe. Toujours est-il que je me suis levée ce matin-là et que j'ai enfilé mon uniforme de police avant d'aller prendre le café chez mon vieil ami triste, lequel, à un moment donné, après avoir bu d'un trait le jus dans sa tasse, a sorti un poisson de sa poche et s'est mis à lui parler tout bas. Rien d'étonnant, triste est le fou officiel d'Ascuas. Il y en a un dans chaque village, parfois plus. Il y a longtemps que je n'essayais plus de le comprendre. J'évoquais tout à l'heure l'atmosphère des romans de James Lee Burke. On retrouve au début de La sagesse de l'idiot ce même ennui, non pas poisseux mais poussiéreux. Les champs de tournesol se dessèchent sous le soleil, les jeunes et les vieux se morfondent, tandis qu'un idiot parle à son poisson. Et c'est là que nous basculons plutôt dans l'univers des frères Coen ou de Tarantino. Un univers absurde, grotesque et violent. Triste, l'idiot du village est retrouvé pendu. Mais Tony Trinidad est persuadé que ce n'est pas un suicide. Il enquête. Et j'ai adoré la galerie de personnages rencontrés. Parmi eux, un mafieux très 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 méchant, nommé l'apiculteur, car il conserve la drogue dans des pots de miel. Mais il se sert aussi des bocaux pour un tout autre usage, puisqu'il y garde quelques oreilles. L'apiculteur appelle deux mercenaires à l'aide d'un téléphone rose-bonbon. Ces deux frères sont surnommés les McEnroe. Je cite, rapport au fait qu'ils aimaient bien jouer au tennis avec des types à la place des balles. Et aussi des battes de baseball à la place des raquettes. Le rythme lent du début du roman s'accélère. Certaines scènes sont violentes, mais j'ai aussi beaucoup ri, même et surtout dans les pires moments. Je ne vais pas divulgâcher, je dirais seulement qu'une urne funéraire peut avoir des usages inattendus ou qu'un major brisé retenu par une attelle est un moyen très efficace de faire des doigts d'honneur à ses pires ennemis. Et il y a des rebondissements jusque dans la dernière page du roman. Il faut vraiment se méfier des anti-héros hématophobes. Mais le plaisir que j'ai eu à lire ce roman tient en fait à bien d'autres raisons qu'au rythme de l'intrigue ou à l'humour. Il y a, comme dans tous les bons romans noirs, également un aspect social. Marto Pariente ancre son récit dans une Espagne post-franquiste, mais c'est fait vraiment de manière subtile. Et j'aime ce passage où Tony Trinidad écoute les propos des petits vieux désœuvrés. J'ai pris la rue principale. Sous les arcades de l'hôtel de ville, sur un banc déglingué, quelques petits vieux tout voûtés taillaient le bout de gras, casquette réglementaire de la banque d'épargne sur la tête et canne à la main. Posés, prenant leur temps pour discuter, ils étiraient sans hâte la matinée, la conversation et leur vie. Le regard perdu au-delà de l'averse. Qu'est-ce qu'ils regardaient ? Leur infini à eux ? Des fantômes ? Va savoir. Je me suis garée le long du bâtiment de briques nues avec ses drapeaux détrempés qui pleuraient pendus au balcon. Une Honda Civic gris métallisée était garée sur la place réservée à la voiture de police. J'ai salué les petits vieux en passant et, en m'ébrouant comme un clébard qui sort du bain, je leur ai demandé s'ils avaient vu ma sœur. Il y en a un qui a craché par terre, avant de dire qu'il ne savait pas, qu'il était temps qu'il pleuve, qu'à l'époque de Franco, ce genre de choses n'arrivait pas et qu'ils avaient foutu les retenues d'eau en l'air avec leur maudit transvasement. Un autre me dit, après avoir retiré sa casquette pour gratter son crâne clairsemé, qu'à l'endroit où se trouvait la banque, avant, il n'y avait que des champs. « c'est vrai, j'ai dit. Prenez soin de vous, messieurs. » Les fantômes de l'Espagne habitent le village, mais ce sont aussi les fantômes personnels de Tony et de sa sœur Vega. À plusieurs reprises dans le roman apparaissent brièvement les terrifiants souvenirs de la Maison Jaune, l'orphelinat où ont vécu Tony et Vega pendant quelques années lorsqu'ils étaient enfants. Ces souvenirs expliquent ce lien si fort qui existe entre Tony et sa sœur. Et on comprend également pourquoi la belle Vega est à ce point paumée, fracassée. Vega est alcoolique, elle n'a pas eu de chance avec les hommes, et le dernier Chimo a mystérieusement disparu depuis un an. J'adore ce passage où Vega espère encore pouvoir se sortir de la situation périlleuse dans laquelle elle s'est jetée. Tu crois que tout va bien ? À ton avis, tout se passe comme prévu. En réalité, c'est peut-être même trop facile, tu te dis. On accède au belvédère par un chemin de gravier qui part d'un virage serré bien avant l'autoroute. Tu passes devant une fontaine où l'eau s'écoule d'un tube en fer. Le bassin en béton la cache, mais tu sais exactement d'où l'eau sort. C'est une nappe aquifère. Tu viens ici depuis des années. Depuis l'époque où Chimo était encore Chimo et toi, Vega, tu n'étais pas encore la loque que tu es devenue. Tu ne t'arrêtes pas pour boire. Cette eau, c'est l'eau du passé. Derrière un relais téléphonique, une clairière et la rambarde en bois au bord du précipice. Des préservatifs, des canettes de bière et des petits sachets en plastique de loin en loin. La nuit, on distingue beaucoup d'étoiles depuis ici. En toile de fond, comme une mauvaise imitation du firmament, l'éclaboussure de lumière de la campagne, les villages, les routes. Et plus loin encore, comme une voie lactée impure, le périphérique étincelant qui entoure la capitale. Il faut beaucoup de talent, je trouve, pour faire fusionner tous ces éléments a priori si éloignés, la violence, le grotesque, les questionnements sociaux et métaphysiques, dans une langue à la fois crue et poétique. Je vous conseille donc ce beau roman de Marto Pariente, La sagesse de l'idiot, paru en 2024, un roman noir, bien rythmé, mais bien plus qu'un polar qu'on lit sur la plage et qu'on oublie vite. Non, au contraire, je suis sûre que vous vous souviendrez du policier Tony, de la belle Vega et du petit village poussiéreux d'Ascoas. En attendant de lire ce livre, vous pouvez toujours retrouver cette chronique sur urban-radio.com.